Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude.
On a une période d'incertitude, 19h01 sur France Culture, c'est le moins qu'on puisse dire et nous continuons donc cette tranche consacrée au premier anniversaire de l'entrée de Donald Trump à la Maison Blanche qui a commencé à 18h ce soir jusqu'à 20h30 sur France Culture. Et nous restons non seulement avec Julie Gacon, qui au cours de la première heure de cette émission spéciale s'est concentrée sur la diplomatie Trump. Et nous allons dans Soft Power ce soir jusqu'à 20h30 nous intéresser quant à nous aux anti-Trump. Comment la résistance ou l'opposition à Trump s'organise, comment la gauche se mobilise et pour une part renaît de ses cendres grâce à Donald Trump. Quelles sont les revues, les émissions de télévision, les podcasts, les mouvements, les réseaux sociaux, à écouter, à lire, à suivre. Second plateau donc ce soir et nous serons avec Bradley Smith, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous avez fait votre thèse sur, je cite, la dialectique du néolibéralisme aux États-Unis aux origines de la révolution conservatrice de la crise financière et la crise financière de 2008. Je vous vois, Marjorie Paillon.
Je suis très impressionnée. Je suis impressionnée rien que par le titre de ce domaine de recherche.
Voilà. Vous commencez votre thèse vous-même.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Je décide à ce moment, à 19h03, de démarrer une thèse.
Marjorie Paillon donc sera avec nous également, journaliste à France 24, qui a travaillé aux États-Unis lorsque vous étiez toute petite.
C'est vrai.
Chez MSNBC, chez CCTV.
CCTV, les Canadiens.
CCTV. Donc, il connaît bien les médias américains. Scott Sayard, on va le dire à la française, ça vous plaît comme ça?
Oui, ça me va très bien.
Vous vouliez qu'on le dise à la française?
Non,
comme on veut.
Exactement.
Voilà, libre. Vous êtes journaliste, vous collaborez notamment à GQ, Harper's, The Atlantic, le New York Times, dont vous avez été l'un des correspondants à Paris, ainsi qu'avec nous aussi autour de cette table, Joé Sfez, journaliste à France Culture.
Joé Sfez, ce soir.
Voilà, Joé.
Je me masculine.
C'est tout.
Chaque jour un peu plus.
C'est en joie.
Bonsoir à tous.
Cinq grands sujets ce soir au cours de cette émission. On commencera par la presse classique. Nous reviendrons sur les fake news et l'opposition de Donald Trump aux grands networks et journaux de référence américains. On parlera ensuite des télévisions et des chaînes d'infos, notamment les late night show. On parlera des réseaux sociaux et des mouvements sociaux. Ce sera la troisième partie. La quatrième sera consacrée aux intellectuels et aux nouvelles revues, qu'elles soient de gauche ou aussi de droite, puisqu'il y a des anti-Trump de droite et nous l'évoquerons au cours de cette émission. Cinquième et dernière partie, on s'intéressera à la culture, au cinéma, à la musique, aux arts plastiques, ainsi qu'à la politique culturelle. Et donc, effectivement, il y a une incroyable opposition aussi des rappeurs, des musiciens, des cinéastes à Donald Trump. Et nous les écouterons d'ailleurs, ces rappeurs, au cours de cette émission. Toujours au sommaire de Soft Power ce soir, émission spéciale anti-Trump. À 20h, votre invité innovation, Zoé Sfez, reviendra sur Trump et la neutralité du net.
C'est Olivier Tesquier, journaliste à Télérama, spécialiste du numérique. On va revenir avec lui, évidemment, sur ce vote à la FCC.
Federal Communication Commission,
qui a donc décidé de revenir sur les règles qui avaient été instaurées sous le mandat de Barack Obama pour, on dira, sanctuariser le principe de la neutralité du web. Qu'est-ce que c'est? Quelles seraient les conséquences si cette neutralité du web venait effectivement à tomber, puisque ce n'est pas encore entré en vigueur? Et surtout, quelle est la position, quelles sont les intentions de Donald Trump? Dans quel endroit politique se place-t-il quand il soutient une telle mesure?
À 20h10, le débat, le numérique politique. Ce soir, ce que Trump fait à Internet. Et nous serons pour débattre, pour répondre à cette question, avec Christian Paul, ancien ministre, et Séverin Naudet, qui était monsieur numérique à Matignon, aujourd'hui consultant en innovation et en disruption. Ça vous plaira ce mot,
Marjorie Paillon. Mais vous êtes à disruption incarnée.
En disruption numérique au cabinet de conseil Tilder. Voilà pour le sommaire de cette émission un peu spéciale ce soir. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec Bruno Gagnère-Fontanille en régie. Elle a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Nathan Marcel Millet. Et vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, sur Medium où on vous a concocté un article ce soir, sur Facebook en podcast et sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. pour commencer cette émission, cinq sujets donc au sommaire, le cinéma, la musique et l'art, les intellectuels, les réseaux sociaux, les chaînes de télévision. Et donc pour commencer, la presse classique, d'abord la presse qui est en guerre contre Donald Trump. Si on regarde les principaux journaux, en tout cas la presse américaine qui résonne à travers le monde, que ce soit le New York Times, le Washington Post, que ce soit le New Yorker, la plupart des grands journalistes sont ouvertement anti-Trump. On peut peut-être commencer avec vous, Scott Sayer. Comment on explique cette sorte d'uniformité dans la bataille anti-Trump?
Je pense que le premier élément peut-être intéressant est sociologique. La presse aux États-Unis, comme en France et dans beaucoup de pays, est une presse composée notamment de gens de tendance de gauche. Donc des gens qui votent démocrate, grosso modo, aux États-Unis. Et donc, c'est pas très surprenant non plus.
Pourtant, il y avait une opposition anti-Trump, anti-Clinton à l'époque.
Absolument. C'est pas pour autant qu'on est d'accord au sein de la presse, ni au sein de la gauche. J'en parlerai peut-être plus tard. Mais donc, d'une part, c'est pas très surprenant qu'il y ait une opposition. Ce qui est plus surprenant à mes yeux, vu d'ici, vu de loin, c'est que le journalisme américain, qui a tendance à être très réservé sur la prise de position, par exemple, politique, il y a des histoires d'éditeurs qui ne votent même pas aux États-Unis, enfin d'éditeurs, c'est-à-dire rédacteurs en chef, rédacteurs...
Pour ne pas être engagé, pour ne pas avoir...
Pour ne pas qu'on puisse leur reprocher...
Pour être neutre.
Exactement, pour ne pas qu'on puisse leur reprocher quoi que ce soit. Donc le journalisme américain a une tradition d'objectivité, soi-disant, on en est très fiers, et donc ce qui me surprend un peu, vu de loin, c'est le fait que les journalistes se permettent, justement, aujourd'hui, de prendre position de manière beaucoup plus ouverte qu'auparavant. Je pense à Twitter, par exemple, où les journalistes ont tous leur compte propre, et où pendant la campagne étaient très critiques à l'envers de, envers Donald Trump.
Marjorie Paillon.
Oui, c'est vrai que cette administration, elle polarise plus que jamais la presse américaine. Et c'est un match qui s'est joué dès la campagne. On l'a vu, c'est vrai que là, on va beaucoup reparler de cette première année de l'administration Trump, mais dès le moment de la campagne, les éditorialistes n'étaient pas d'accord entre eux. Et tant mieux, c'est ce qui fait aussi la ferveur du débat et du sel du débat politique américain. Mais ce qui est aussi assez fascinant, c'est de voir à quel point, alors on va revenir sur les grandes terminologies de l'administration Trump, fake news, post-truth, ce genre de vocabulaire, et sur ce que ça veut dire aujourd'hui, même pour nous, du point de vue du traitement de l'actualité politique et la façon dont ça remodèle aussi le débat démocratique. Je pense que c'est très important de s'interroger là-dessus. Mais par exemple, ce mercredi était décerné par Donald Trump les tout premiers Fake News Awards, donc c'est vraiment les prix des fausses informations délivrées par le président, jugées par un jury absolument intrinsèque qui est le président lui-même. C'est donc Fake News Awards ont été remis en majorité à des titres finalement de médias très, très mainstream, CNN, le New York Times, notamment Paul Krugman qui en a pris un peu pour son grade, même beaucoup pour son grade, puisque c'est le premier prix, je crois, de ces Fake News Awards pour un éditorial qu'il a fait paraître quelques jours avant l'élection de Donald Trump en expliquant pourquoi ce serait dévastateur pour l'économie américaine.
C'est quand même un prix Nobel d'économie.
Oui, en 2008, Krugman qui lui-même, trois jours après, finalement refait un éditorial dans le New York Times en expliquant qu'il est peut-être allé un peu fort et que bon, faut peut-être minorer cet impact économique, mais ça n'empêche pas à Donald Trump du coup de lui décerner la palme du média le plus malhonnête et le plus biaisé. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment cette affaire finalement qui est un peu croquignolesque de prix anti fake news a vraiment ressurgi dans le débat politique américain, notamment avec des sénateurs républicains, deux sénateurs de l'Arizona, Jeff Flake d'un côté et John McCain de l'autre, qui vraiment ont fait des discours, ont notamment aussi rédigé des tribunes en expliquant à quel point c'était aujourd'hui impensable d'avoir un leader de l'administration américaine, Donald Trump, le président des États-Unis, employer un vocabulaire que même des dictateurs ne renieraient pas. Et je pense que là, c'est vraiment un point très intéressant de ce qui est en train de se passer au sein même du parti républicain.
Bradley Smith, c'est juste une réaction sur ce mouvement. Comment est-ce qu'on le définirait ? On parle parfois de résistance, le mot vous convient ? Ou comment est-ce qu'on peut rentrer dans... ce débat.
Ça dépend des acteurs dont il s'agit. Donc, dans la presse, par exemple, je ne sais pas s'il s'agit de résistance engagée, mais plutôt une résistance pour défendre le métier de journaliste, notamment sur la thématique des fake news, parce que beaucoup de la guerre entre Trump et la presse est centrée sur cette problématique, parce qu'en traitant, en gros, tout ce qui ne lui plaît pas de fake news ou de mensonges, Trump alimente lui-même un cercle vicieux de polarisation entre, d'une part, les médias de son camp, en gros avec Fox News, Breitbart et le compte Twitter de Trump lui-même, et d'autre part, la majorité des autres médias, notamment New York Times, The Washington Post, etc. Et quand les journalistes se sont attaqués comme ça, évidemment, ils vont réagir, ils vont dire non, ils vont défendre l'intégrité de leur reportage. Et ensuite, Trump va dire, ah, vous voyez, ils sont tous contre moi. Vous
voyez, Scott, ils sont notre, Scott Sayer, sur cette expression résistance.
Oui, je ne sais pas si dans la presse, on peut parler de résistance. Je partage l'avis de Bradley sur le fait que je pense que la presse ne se permet pas tout de même d'être dans une résistance ouverte à l'administration. Mais c'est une résistance.
On n'en est qu'à la première année, il en reste trois à tenir.
On est d'accord. On est d'accord, mais on a déjà vu des choses assez graves et troublantes aux États-Unis et ces traditions a perduré pour autant. En termes de résistance, je suis également de l'avis de Bradley. Je pense qu'on est dans une défense de principe. On est dans une défense de la notion d'une vérité à peu près objective, à laquelle tout le monde peut se mettre d'accord, enfin sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord. Je pense que c'est ça qui est défendu par la presse, qui est tout de même pris, comment dire, la presse américaine va très très mal. Avant Trump, et sans aucun lien, la presse américaine va très mal.
À cause de son modèle économique.
De son modèle économique.
Pourtant,
et à cause d'Internet.
Le New York Times se porte bien, le Washington Post a été renfloué financièrement par
les autres. Mais justement, on est dans un moment de grand questionnement. Le New York Times essaie un modèle sur base d'abonnement qui marche plutôt bien, mais on ne sait pas si ça va perdurer. Le Washington Post a été racheté par un grand milliardaire, Jeff Bezos, ce qui est problématique à la base, parce que c'est quelqu'un qui a une grande influence économique. Bref.
Patron d'Amazon, oui.
Exactement. Donc, la presse va mal. Je pense que la presse a vu, et à juste titre, au début, à l'élection de Trump, une vraie possibilité de regain économique. Et donc, il y a eu une volonté, dès son élection, de se montrer, c'est-à-dire de faire des campagnes de pub. Pour revenir à ce qu'on défend au niveau de la presse, le New York Times a, par exemple, fait une grande campagne de pub autour de la notion de « truth ». Vérité. Le Washington Post, dès l'élection, a changé, s'est donné un slogan qui est « Democracy dies in darkness », la démocratie meurt dans l'ombre. Et tout ça, c'était dans une volonté commerciale, évidemment, mais une volonté de rebondir sur la menace que représentait Donald Trump pour la vérité.
Marjorie Payou.
Ouais, et ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est la façon dont aujourd'hui on a vraiment ce positionnement entre vérité et anti-vérité. Là où ça devient compliqué, c'est quand on a affaire à des consommateurs d'informations, à des lecteurs, à des auditeurs, à des téléspectateurs, à des internautes, qui remettent même en cause la notion des faits, purement et simplement. Ça devient compliqué, parce que c'est un moment où on ne peut plus faire notre métier. Quand on ne croit plus un fait, du factuel, pur et dur, c'est compliqué pour nous, derrière, de réussir à montrer, à relativiser une certaine partie de ces informations. Mais là où c'est vraiment intéressant, notamment sur la campagne menée par le Washington Post, par le New York Times, pardon, sur Truth Has a Voice, la vérité a une voix, désormais, c'est qu'en réalité, cette campagne, elle a été lancée il y a quelques jours à l'occasion des Golden Globes, dont on va peut-être parler avec notamment la semi-déclaration de candidature d'Oprah Winfrey, mais en réalité c'était une campagne qui était menée pour appuyer et abonder dans le débat du MeToo, dans le débat notamment sur les scandales de harcèlement à Hollywood ou dans l'ensemble de la société américaine. Et finalement, c'est un slogan qui peut très bien s'approprier à n'importe quel fait et geste de l'administration Trump. Donc on est vraiment à un moment donné où finalement n'importe quelle info rejoint à un moment donné le débat et la croisade qu'on peut mener contre l'administration Trump.
Zoé Fez.
En deux mots, on peut quand même dire que Donald Trump est peut-être, si on le formule comme ça, l'une des personnalités politiques qui a su le mieux se servir d'une défiance déjà existante existantes aux États-Unis, mais c'est évidemment, et on sait que beaucoup de il y a des accointances entre Donald Trump et une certaine partie de l'extrême droite française et européenne qui justement fait le même travail sur Internet que Donald Trump l'a fait pendant sa campagne, et donc il a su, si on peut le présenter comme ça positivement, merveilleusement bien se servir d'une défiance déjà existante des Américains envers leurs propres médias, évidemment occasionnant du coup une réaction d'autant plus ferme de la part des médias majoritaires, qui fait qu'aujourd'hui on est dans une réelle polarisation, avec évidemment la question que ça pose, c'est-à-dire est-ce que quand les médias américains, les grands médias américains font ce type de campagne, ou tout simplement mènent un travail, on va dire, de fact-checking de ce que dit le président Trump, est-ce que c'est pas aussi contre-productif puisqu'il s'adresse à un public qui est peut-être par essence déjà convaincu.
Scott, c'est rien.
Oui, effectivement, je pense qu'on est dans un système aux États-Unis où on a le problème de s'adresser toujours aux mêmes des deux côtés. C'est-à-dire, Donald Trump comprend très bien qu'il a 38% de la population qui va le permettre de dire ce qu'il veut. Il avait dit pendant la campagne de manière assez célèbre qu'il pourrait même descendre quelqu'un, abattre quelqu'un avec une flingue sur la 5e avenue à New York, et on voterait toujours pour lui.
En tout cas, c'est 38% peut-être.
Exactement. Et donc, d'une certaine manière, il ne s'intéresse pas aux autres.
Il faudra avoir 50%.
On est d'accord, et donc d'ici 3 ans, on va voir ce que ça donne.
Et même cette année, puisqu'il y a des élections partielles. Et
effectivement,
mi-terme.
Mais de la même manière,
en novembre.
Je pense que la presse ne fait pas non plus un travail pour aller parler à tout le monde aujourd'hui.
Donc elle s'adresse aussi à sa bulle, quoi. C'est une bulle face à une autre bulle.
Je pense que c'est légitime de se poser la question sur la campagne du New York Times, par exemple, sur la vérité. Je ne pense pas que ça va convaincre des électeurs de Trump d'acheter le New York Times. Oui. Ils vont convaincre des gens qui lisaient déjà le New York Times, qui sont dans une bataille qui leur plaît.
Peut-être pour terminer sur cette présentation un peu de ce premier enjeu autour de la presse, Bradley Smith, alors on a cité des noms, Thomas Friedman, on peut citer Jeff Zucker de CNN, Fareed Zakaria, Dean Baquet du New York Times, on peut citer le New Yorker encore, l'article de David Remnick cette semaine, c'est quand même l'éditeur du New Yorker, article terrible sur Donald Trump et Twitter qui ouvre le New Yorker, etc. George Packer qui vient de publier L'Amérique défaite, traduit au seuil en français. Bref, une presse qu'on connaît bien, qui est cette presse américaine très anti-Trump. Mais il y a aussi des nouveaux venus, tout un tas de journaux. Je pense par exemple cette revue Jacobine, on peut en citer d'autres. On parlera tout à l'heure des émissions de télévision ou de radio ou des podcasts. Comment est-ce que vous voyez cette ébullition, cette effervescence d'une nouvelle presse anti-Trump, mais d'une nouvelle génération, d'une nouvelle manière?
Oui, Jacobine, c'est un bon exemple d'un magazine de gauche post-guerre froide, on va dire. C'est comme ça qu'il voulait le présenter. Et c'est l'occasion de donner la parole à des penseurs, à des militants de gauche, de la gauche radicale américaine. Et notamment avec un format qui est beaucoup plus abordable pour...
Très belle maquette.
C'est une très belle maquette.
Alors, ils défendent le socialisme et le jacobinisme, donc pourquoi pas.
Voilà.
C'est osé aux États-Unis.
Le jacobinisme.
Allez, Jacques Bernier, ça peut prêter à confusion en France dans un contexte français, justement. Pour une insulte, jacobinisme, ça veut dire. Ouais.
Alors, nous citerons au cours de cette émission beaucoup de titres, de noms, de personnes, aussi de revues. On les place et on vous les communique, si vous voulez retrouver telle ou telle référence, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter ou hashtag Soft Power. On les mettra aussi sur un médium qu'on écrit pour cette émission, ainsi que sur la page de notre émission sur le site franceculture.fr. On se retrouve juste après cette première pause musicale. Vous allez voir de quoi il s'agit pour parler télévision et chaînes d'information, et notamment des late night shows. En attendant, c'est anti-Trump, ça ne vous échappera pas.
And any fan of mine who's a supporter of his, I'm drawing in the sand a line. You're either for or against. And if you can't decide who you like more in your split on who you should stand beside, I'll do it for you with this. The rest of America, stand up. We love our military and we love our country. But we hate Trump!
Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah.
I like white folks, but I don't like you. All the niggas in the hood wanna fight you. Surprise El Chapo ain't tried to snipe you. Surprise the Nation of Islam ain't tried to find you. Have a rally out LA, we gon' fuck it up. Home of the ride and the king ride, we don't give a fuck. Black students ejected from your rally. What? I'm ready to go right now, your racist ass did too much.
Les morceaux anti-Trump sont si nombreux qu'on a choisi de vous en mixer quelques-uns ce soir pour que vous puissiez entendre un éventail, hein, c'est large, de contenu qui critique ouvertement le président américain, c'est vraiment ouvertement sa politique. À l'instant, vous entendiez le désormais célèbre freestyle du rappeur Eminem, suivi d'un morceau au titre évocateur qu'on ne traduira pas en français sur une station familiale et bien élevée comme France Culture. Fuck Donald Trump, hein, on sait pas.
Le message est clair.
Qu'est-ce que vous pensez les uns les autres, Bradley Smith, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre, Marjorie Paillon, journaliste à France 24, Scott Sayer, journaliste, ancien correspondant du New York Times et journaliste qui collabore à GQ, Harper's, etc. et Zoé Sfez de France Culture sur ce rap, ce type de musique, les uns les autres. Je vous voyais sourire et même... Et même faire des signes pendant le début d'Eminem.
Oui, justement, parce que j'en parlais.
Ça disait quoi, grosso modo, sans... C'est très violent. Hein.
C'est extrêmement violent. Et ce qui est intéressant avec Eminem, c'est qu'il se désavoue totalement d'une bonne partie de sa base de fans.
Oui, parce que c'est un rap blanc.
C'est un rappeur blanc qui a toujours su attirer des gens venant... des gens de tous bords, grosso modo.
Et notamment le white trash. Ça a été ça aussi, Eminem. C'est-à-dire le blanc... parfois pauvre, ou en tout cas pas forcément
bien élevé,
pas
forcément de gauche, pas forcément
qui cherchait un rap qui n'était pas noir et qui avait trouvé Eminem. Et là, exactement. Il s'oppose à Trump.
Il c'était un grand pari. Bon, c'est aussi un moment, je pense, où Eminem essaie de se refaire monter, de revenir, et donc c'était un moment de créer une sorte d'éclat.
Bradley Smith.
Oui, ce qui est intéressant aussi dans ce freestyle d'Eminem, c'est qu'il fait référence à ce mouvement des sportifs professionnels qui mettent le genou par terre pendant l'hymne national. Et ça aussi, c'est quelque chose de très polémique aux États-Unis. Le sport faisant partie de la culture américaine.
Ça veut dire quoi, mettre le genou par terre? Le symbole signifie quoi, hein?
Ce mouvement a commencé, c'était pour protester des violences policières contre les Noirs. Ça a commencé sous la présidence d'Obama. Ça se poursuit actuellement. Et Eminem fait référence à ça parce que Trump veut taire une voix. Ses sportifs essaient de donner une voix à ceux qui n'en ont pas en se servant de leur célébrité avec un grand public, etc. pour dénoncer les violences racistes qui sont de plus en plus inquiétantes à l'ère de Trump.
Alors on a évoqué en première partie d'émission la presse, venons-en à la télévision, c'était une bonne transition finalement avec Eminem et aux chaînes d'information et notamment à ces fameux late night shows, peut-être Bradley Smith encore, ces comedy shows, alors que ce soit de late show avec Stephen Colbert, late night avec Jimmy Fallon, je pense aussi au Daily Show qu'a repris Trevor Noah ou d'autres, Saturday Night Live, des émissions incroyablement anti-Trump pour la plupart.
Oui, pour les late night shows, ce qui fait recette aujourd'hui, c'est un discours franchement anti-Trump.
Comme si les morning shows étaient pro-Trump et les late shows, ça veut dire que le Trump de base se lève tôt et par contre l'anti-Trump se couche tard.
C'est pas si loin de la réalité.
Ouais, peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent tard le soir, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on regarde l'évolution des audiences, des trois grands, on va dire, c'est Stephen Colbert, Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon. Jimmy Fallon qui anime The Tonight Show, qui est un peu le late night show historique, il a gardé un peu ce format où il est plus ou moins neutre, c'est le plus neutre des trois. Et le format à l'époque était, on veut pas fâcher chez les gens, on peut se moquer du président, mais c'est plutôt bon enfant, on veut trouver un juste milieu. Alors que il a fait un entretien de Trump juste avant les élections et on lui a reproché d'avoir été pas assez politique à cette époque-là. Et par contre, Stephen Colbert a dépassé Jimmy Fallon dans les audiences depuis en ayant un discours franchement anti-Trump. Et c'est ça qui marche en fait. Jimmy Kimmel est aussi en train de rattraper Jimmy Fallon, et du coup ça représente un tournant dans la politique de ces émissions.
Marjorie Payon.
Après, il faut expliquer aussi que Stephen Colbert, par exemple, c'est toujours été un présentateur de Late Night Show qui a toujours été très au clair sur ses plutôt sentiments démocrates. À l'époque où Jon Stewart encore présentait le Daily Show, ils s'étaient ensemble ligués, si j'ose dire, pour mener notamment toute une série de town hall meetings, de meetings pour aller rencontrer directement les électeurs américains.
Oui, sur le terrain, dans chaque ville,
oui,
etc.
Oui, exactement. Et voilà, en jouant tous les deux des fausses batailles entre l'un et l'autre. Alors, c'était à l'époque aussi de la grande polémique sur les super PAC qui permettent de financer, qui théoriquement n'ont pas le droit de financer directement une campagne, donc un candidat, mais qui peuvent quand même appuyer, abonder d'un point de vue du financement pour aider sa candidature. Et donc ils avaient tous les deux monté des super PAC très ironiques pour justement se lancer dans la bataille. Mais quand on parlait tout à l'heure des Fake News Awards, par exemple, ça a été une vraie bataille tout au long de ces dernières semaines entre justement les grands présentateurs des Late Night Show pour réussir à récupérer le titre justement du média le plus malhonnête et le plus biaisé. Et on voyait des pubs un peu partout dans la presse américaine où chaque Late Night Show se vantait d'être le Late Night Show le plus détesté par Fox News, celui qui menait la plus grande propagande anti-Trump.
Donc, il y avait le plus de tweets signés par le président.
Oui, exactement. Et ça devient finalement...
Qui les attaque, rappelons-le, sur Twitter. Il les nomme et les dénonce.
Mais absolument.
En tant que fake news, ABC,
la
fake news,
la tradition du Late
CNN.
Night Show, elle est aussi faite pour attaquer toute administration, quelle que soit sa couleur politique. C'est-à-dire que, oui, les Late Night Show ne se sont jamais aussi bien portés que quand George W. Bush était président et ça leur permettait de faire des audiences absolument incroyables. Mais ils n'étaient pas tendres non plus pendant les deux années, les deux mandats de l'administration Obama.
Scott Sayers.
Un peu plus conciliant, peut-être.
Sur ces Late Show, on n'a pas parlé du Last Week Tonight de John Oliver également.
Mais justement, c'est utile que vous en parliez parce que, d'une certaine manière, je pense qu'on assiste aux États-Unis à la daily showisation de la late night, c'est-à-dire le John
Stewartisation. Il va falloir le redire dans le bon ordre.
Le daily show, c'était une émission sur Comedy Central, qui est une chaîne payante aux États-Unis, qui à la base joue des clips de comédiens, de stand-up, etc. Mais il y avait une émission qui n'était pas au début animée par John Stewart, mais par la suite, oui, et c'est là où ça a grandi. Quand on a compris qu'en fait la parodie politique et le satire politique marchaient extrêmement bien. Et cette émission a vraiment été une découverte aux États-Unis. Donc, John Oliver, Stephen Colbert, c'est des anciens de sous John Stewart. Et je pense que, d'une certaine manière, on assiste à une reformulation de ce qui se passe dans les late-night shows.
Alors, pour terminer sur ces exemples, on pourrait citer également, bien sûr, tout ce qui va se passer au niveau, je pense, les Simpsons, par exemple. On peut évoquer mon buzzword du moment, les pundits, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français les experts, tout simplement, qui viennent sur les plateaux de télévision. Donc, ces pundits sont très aussi anti-Trump. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des chaînes de télévision qui, elles, sont très favorables à Trump. Pour commencer, bien sûr, Fox News. Mais j'aimerais juste conclure peut-être sur Marjorie Payon, ce qu'on pourrait appeler la résistance podcastée et podcastable. Alors là, on passe à la radio un peu.
À la radio. Et une autre forme de radio, enfin ça, vous le connaissez bien. Et pour les éditeurs de Soft Power, on connaît bien la différence entre radio en live et podcast pour le coup. Mais ce qui est assez intéressant, c'est notamment un podcast dont moi je suis assez fan, j'ose le dire à ce micro, qui s'appelle Pod Save America. Évidemment, c'est un jeu de mots avec God Bless America. Là, c'est vraiment le podcast qui va sauver l'Amérique et qui, en fait, est fait par quatre jeunes gens absolument formidables qui sont des anciens de l'administration Obama. Jon Favreau en tête.
L'ancienne plume.
Absolument, du président Obama. C'est tous des gens relativement jeunes et brillants, pour le coup. Donc, élevés, biberonnés à la culture démocrate, oui, mais qui ne cachent pas leurs opinions de toutes les façons dans cette émission. Et tout l'enjeu de ce podcast, qui est fait de façon un peu épisodique, parfois deux fois par semaine, parfois une fois par semaine, ça dépend un peu des endroits dans lesquels il se trouve, c'est justement de revenir sur l'actualité de l'administration Trump et comment finalement survivre dans ce Trumpland pour justement de jeunes démocrates éclairés.
On peut citer dans cette catégorie des podcasts, alors ce n'est pas nouveau, mais c'est évidemment très anti-Trump, donc comme quoi ça marche aussi même quand c'est, dans les vieilles assiettes que tout ça se fait. C'est Amy Goodman avec son Democracy Now, podcast qui est diffusé sur des centaines de radios, mais surtout aussi accessible online. Online. Et là, c'est une émission, qui rassemble vraiment toute la gauche et l'arrière-gauche et l'ancienne gauche actuelle, américaine.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces personnalités-là, médiatiques finalement, démocrates par excellence, s'interrogent aussi sur l'avenir du Parti démocrate. Et la façon dont ils vont pouvoir stimuler le débat au sein du côté libéral, dans le sens américain du terme, et comment est-ce que justement on peut trouver une nouvelle figure au Parti démocrate. Parce que la vraie problématique, elle est là, elle est que quand même aujourd'hui, en réalité, on n'a pas de jeune leader démocrate qui fait surface.
Il y en a, mais bon. France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
I hope that he will be a successful president for all Americans.
France Culture, 19h31. Vous êtes en Soft Power jusqu'à 20h30. On s'intéresse aux anti-Trump ce soir en Soft Power. On parlera tout à l'heure à 20h de la question avec Olivier Tesquet de la, comment pourrait-on dire, Zoé Fez.
De la neutralité du web.
Neutralité du net.
Du net.
Et puis on fera un débat sur ce que le web a fait à Donald Trump et réciproquement. Est-ce que Donald Trump a fait au web?
Mais c'est sûr que c'est un peu Donald Trump contre la Silicon Valley, et ça c'est très intéressant à analyser. Je pense que vos invités en parleront d'un point de vue politique.
Mais on va l'aborder justement, parce que c'est la troisième partie qu'on voulait, dont on voulait discuter ce soir, les réseaux sociaux, et qui donnent aussi, qui empiètent et qui se complètent à travers des mouvements sociaux. Nous sommes avec vous, Marjorie Payon, journaliste à France 24, Bradley Smith, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre, et Scott Sayer, journaliste, ancien correspondant notamment au New York Times à Paris, et bien sûr Zoé Fez avec moi jusqu'à 20h30. Réseaux sociaux, mouvements sociaux. Alors là encore, la Silicon Valley, d'une certaine manière, vous venez de le dire, Marjorie Payon, que ce soit Mark Zuckerberg pour Facebook, Sergey Brin pour Google, Tim Cook, le patron d'Apple, Reed Hastings pour Netflix, Brian Chesky pour Airbnb. Tous ces acteurs sont très opposés à Donald Trump, le disent publiquement. Là, on est dans un secteur où les réseaux sociaux, Scott Sayer, sont très hostiles au président, déjà dans ceux qui gèrent ces réseaux sociaux, c'est-à-dire les compagnies.
Je nuancerai un peu.
Oui.
Dans la mesure où, sur le plan de la politique sociale, ces organisations sont totalement opposées à Donald Trump. C'est-à-dire, ils sont en Californie, qui est tout de même un État
démocrate, globalement.
Très démocrate, enfin, aux États-Unis, très de gauche, aussi assez libéral, mais dans le sens classique, c'est-à-dire pour les libertés, et on est face à un président qui veut les réduire, que ce soit des libertés des sans-papiers, de ne pas se faire prendre de la coopération entre la police locale et la police fédérale pour envoyer des gens, enfin bref. Donc c'est des gens qui ont une culture sociale et politique qui est plutôt l'inverse de Donald Trump, mais qui ont une culture économique qui va extrêmement bien avec Donald Trump. C'est-à-dire la tax cut, la réduction d'impôts que vient de signer le Congrès, et le premier grand succès législatif de Donald Trump, ça va plaire très fortement à ces organisations. C'est des organisations déjà qui ne paient pas, grosso modo, leurs impôts aux États-Unis.
Elles vont quand même devoir rapatrier une partie de leurs fonds, c'est le cas d'Apple cette année.
Absolument, et c'est la preuve que la justice, que ce soit américaine ou européenne, peut fonctionner. Mais tout ça pour dire que c'est pas des organisations qui de fond, ont forcément une opposition à Donald Trump. Je pense aussi à Peter Thiel. C'est-à-dire le
son retournement, disons là.
Oui, tout à fait. Mais on est dans une culture dans la Silicon Valley qui dans l'idolisation, l'idolâtrie de l'entrepreneur et de l'initiative individuelle. Et ça, pour Donald Trump, ça peut lui plaire. Il y a pas de problème à ce niveau-là.
Alors, il faut peut-être rappeler que Peter Thiel, ça a été un des premiers investisseurs de PayPal, notamment de Facebook surtout, et que c'est quelqu'un qui est connu pour avoir des opinions libertariennes, vraiment.
Qui avait défendu Donald Trump pendant la campagne.
Qui a beaucoup défendu Donald Trump pendant la campagne. Et qui a été surtout la cheville ouvrière d'une réunion très importante sur les premières semaines de la constitution de l'administration Trump, entre les grands patrons justement de la Silicon Valley et des opérateurs américains, et Donald Trump lui-même, pour essayer d'aplanir un petit peu les choses et les débats qui avaient justement été assez controversés pendant la campagne. Mais une des fractures fondamentales entre la vallée et entre Donald Trump, c'est surtout la question de l'immigration.
C'est le Muslim ban.
Absolument.
Et
en ce moment, ça a une résonance dans l'actualité tout à fait particulière, puisque si l'État américain est en situation de shutdown et que les tractations entre le Sénat, le Congrès et l'administration fédérale n'ont pas pu être menées jusqu'au bout vendredi soir, c'est notamment sur un point, une fracture absolument irréconciliable sur la question des Dreamers, le Dreamer Act, ces jeunes Américains qui sont nés sur le sol américain, de parents immigrés, qui ont été légalisés par l'administration Obama et dont aujourd'hui Donald Trump veut tout à fait défaire la citoyenneté. Et ça, c'est un souci parce que c'est une vraie force de travail dans la Silicon Valley. C'est vraiment les workers de la Silicon Valley.
Quel lien ont fait Bradley Smith entre non seulement ses réseaux sociaux, mais aussi les hashtags et notamment les mouvements qui sont nés grâce aux réseaux sociaux, enfin grâce aussi à des problématiques sociales sur le terrain. Je pense bien sûr à la marche des femmes à Washington à l'origine, ensuite au mouvement autour de Charlottesville, MeToo, etc., qui sont très anti-Trump. Mais est-ce que c'est seulement des mouvements anti-Trump ou est-ce que c'est d'abord tout simplement des mouvements sociaux qui se trouvent à avoir des désaccords avec le président des États-Unis?
Oui, Trump est visé par plusieurs mouvements sociaux sur les réseaux sociaux sans en être forcément l'objet principal au départ. En ce qui concerne MeToo, Trump lui aussi est visé par des accusations d'agression sexuelle.
Récemment par une prostituée notamment.
Entre autres, oui. Pareil pour Black Lives Matter, c'était pas anti-Trump au départ, mais ça rejoint des thématiques de racisme. Il y a aussi des scientifiques qui se mobilisent, ils avaient l'hashtag US of Science, Trump qui affiche un mépris du monde de la science, etc. En gros, les réseaux sociaux peuvent servir à l'amplification de ces mouvements parce que ça facilite l'organisation de manifestations et d'autres formes de mobilisation qui dépassent les réseaux sociaux eux-mêmes.
On peut aussi noter, alors évidemment, on peut quand même rappeler que évidemment Donald Trump et son légendaire compte Twitter est quand même c'est une vraie nouveauté, c'est-à-dire que c'est lui qui est le premier à investir ce champ-là et qui s'en sert.
Et puis surtout, là, on ne se pose même pas la question de savoir s'il y a un community manager.
On
sait que c'est lui qui le fait.
Que c'est lui avec ses fautes d'orthographe, ses élans et ses indignations parfois extrêmement
drôles. Ses coups de cœur et ses coups de gueule.
Ses coups de gueule, parfois certains coups de cœur sont obligés. Bon, bref, il faut aussi noter un essor très très important des applications politiques sur les téléphones portables.
Absolument.
Depuis l'accès au pouvoir de Donald Trump, qui existait déjà, mais qui ont vraiment pris un espèce d'envol. Il y a notamment gros succès de Voter, qui est l'équivalent de Tinder, mais où vous donnez votre couleur politique. We Are The People, il y a Vote Spotter, alors ça qui a vraiment explosé, qui permet aux gens d'interpeller des élus de votre circonscription ou vos représentants du Congrès, etc., sur le vote de certains textes. Et Congress, qui ont cumulé genre des centaines de milliers de téléchargements dans le mois qui a suivi l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Et puis aussi, on peut quand même noter l'arrivée, en tout cas la spécialisation qui eux aussi suivent le mouvement de tous ces médias qui sont nés sur Internet. Je pense à TTN, par exemple, qui sont des médias qui fonctionnent un peu comme Brut en France uniquement sur les réseaux sociaux, qui se servent énormément. Et vous parliez tout à l'heure, Marjorie, de l'émergence ou pas de nouvelles figures démocrates, mais par exemple, on sait que les auditions du gouvernement, les auditions par des sénateurs démocrates, par exemple, de membres de l'administration Trump, sont des énormes succès sur les réseaux sociaux. On les voit d'ailleurs en France, on y a accès, ils sont très bien traduits, avec notamment les coups de gueule de Kamala Harris, qui est en train de devenir l'une des figures du Parti démocrate, qui sont là aussi, voilà, qui ne sont pas franchement anti-Trump, mais qui diffusent, qui voient là des contenus qui marchent extrêmement bien et qui sont assez pertinents et qui existent, mine de rien, si on ne peut pas parler de résistance, sur les réseaux sociaux.
Pour terminer cette partie sur les réseaux sociaux, Scott Sayer.
Oui, pour rebondir directement sur l'exemple de Kamala Harris et les autres vidéos qui circulent, je pense qu'on assiste à quelque chose qui est une sorte de marché de l'indignation. Et c'est très bien que ça marche, mais je voudrais, sans vouloir doucher les espoirs que ça peut faire naître, je voudrais
doucher tout de même, nos espoirs.
je voudrais tout de même rappeler que émettre la notion que Trump est une sorte de réaction. L'élection de Trump est une réaction. Ce que suscite l'indignation d'un côté, c'est-à-dire la satisfaction, le fait de se savoir entouré, une sorte de solidarité dans l'indignation. De l'autre côté, ça énerve les gens. Et je pense que les électeurs de Trump, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, sont des gens qui se sentent totalement déconsidérés, qui ressentent le dédain avec lequel on les regarde d'en haut. Et je ne suis pas convaincu que cette façon de s'indigner sans cesse, je le comprends, je suis indigné moi aussi, mais je ne suis pas
forcément
sûr,
efficace. Ça c'est peut pas être forcément contre-productif. Efficace.
Et je pense que l'un des grands problèmes pour le Parti démocrate dont on parlait tout à l'heure, qui doit se trouver un moyen de contester Donald Trump et de gagner des élections, ça va être de savoir si on se laisse aller dans l'indignation, parce que c'est ce que les électeurs veulent, les électeurs de gauche, ou si on se décide, et c'est un débat très réel aux États-Unis aujourd'hui, ou si on se décide de rassembler.
Brièvement, Bradley Smith.
Je suis d'accord avec Scott. Je pense qu'il faut effectivement insister sur l'ambiguïté des réseaux sociaux comme moyen de mobilisation, parce que ça peut aussi une forme de narcissisme, de construction d'identité. Moi, je suis plus anti-Trump que vous, etc. Mais en même temps, si on ne réfléchit pas aux alternatives derrière, ça ne va pas très loin. Et d'autant plus que chacun se met un peu dans une bulle, une chambre d'écho, et on se parle à chacun aux autres qui sont déjà d'accord avec ce qu'on dit.
France Culture, 19h42. Dans un instant, on parle des intellectuels, des nouvelles revues, ainsi que peu après, nous évoquerons la culture, le cinéma, la musique, la politique culturelle, ainsi que les arts plastiques. Tous ces gens-là sont anti-Trump. First world problems they make up. Have a dream and they never wake up. When so much turns to too much, have a dream and they never wake up. Come on, come on, come on. Yeah, mother pussies. Baby. Yeah, mother pussies.
Now, markets about to crash. Niggas is fake rich. Bitches is fake bad. Blacks that act white. Whites that do the dab. Donald Trump is a chump. Know how we feel, punk. Tell him the guy coming. Now, Russia need a replay button. Y'all up to something. Electoral votes look like memorial votes. But America's truth ain't ignoring the votes. It's blasphemy. How many go blasphemy? I prophesized on my last song. You laughed at me. But when the shit get bracket, don't you ask for me. How many leaders go tell you the truth after me? G Malone, big bro, kudos to him.
À l'instant, de nouveaux extraits de morceaux anti-Trump avec dans l'ordre que nous venons d'écouter Chance the Rapper, Fiona Apple et Kendrick Lamar. La liste est longue et on aurait également pu ajouter ce soir Coco Rosie, Gorillaz, Arcade Fire, Roger Waters, Mick Jagger, Bruce Springsteen ou encore John Baez et j'en passe. Et de nombreux. On commence maintenant quatrième partie qu'on avait évoquée ce soir. La question des intellectuels et d'un certain nombre d'économistes, etc. Et là encore, même s'il y a des intellectuels de droite, et je pense notamment à ce qu'on appelle la alt-right, c'est-à-dire la droite alternative, qui a d'ailleurs créé ses contre-mouvements intellectuels. Il y a une sorte de Reddit alternative qui s'appelle Voat, une sorte de Wikipédia de droite qui s'appelle Infogalactique. Il y a un Kickstarter pour trouver de l'argent qui s'appelle Goy. Fund Me, incroyable. Il y a Wrong Think, une sorte de Facebook, ou encore PewTube, qui est une sorte de YouTube. Tout ça étant des groupes qui cherchent à créer des sites ou des réseaux sociaux de l'alt-right, donc de la droite alternative américaine. Et parmi, face à eux, beaucoup d'intellectuels, alors là vraiment, également, c'est très, très difficile de trouver sur les campus, les grands campus américains, même parmi des intellectuels qui étaient proches, disons, de la famille Bush, ou parfois de la famille Reagan, ou qui avaient été très, comment dire, marqués par un certain discours historique de la droite américaine. C'est très difficile de trouver des supporters de Trump. En revanche, l'opposition, alors qu'elle soit de gauche, qu'elle soit libertarienne, et c'est peut-être par ça qu'on pourrait commencer, ou qu'elle soit d'extrême gauche, est très vive. C'est une opposition, Bradley Smith, qui est également de droite, et notamment des libertariens, comme on les appelle.
Oui, en effet, vous avez raison d'insister sur le fait que ce soit aussi bien des intellectuels de gauche comme de droite qui s'opposent à Trump. Je pense notamment sur la droite à David Stockman, qui était chargé de l'Office of Budget Management sous Ronald Reagan. C'était un peu l'architecte de la politique économique de Ronald Reagan, et qui, quelques années après, avait écrit un ouvrage, une sorte de mea culpa, pour dire que oh, on est allé trop loin, on va faire exploser les déficits, etc. Lui, il a publié beaucoup d'articles dernièrement pour dénoncer la politique fiscale de soutenue par l'administration Trump. On aurait pu penser que des gens comme lui seraient plutôt favorables à ce politique, et pourtant il trouve pas beaucoup de soutien de ce côté des intellectuels de gauche ou d'anciens membres d'administration républicaine.
Scott,
je pense que il faut insister sur le fait que la droite aux États-Unis, depuis assez longtemps, se considère comme étant une droite conservatrice. Enfin, le courant politique du conservatisme est ce qui animait, et c'est un vrai courant intellectuel, et ce qui animait la droite américaine pendant de longues décennies. Donald Trump est tout sauf conservateur. Bon, il peut se montrer conservateur s'il comprend que ça va dans le sens si ça a un sens politique pour lui, sens électoral, mais ce n'en est pas un. La distance intellectuelle entre un Donald Trump et un Mitch McConnell, qui est le Senate Majority Leader, c'est un gouffre. C'est des hommes qui se détestent, qui ne se comprennent pas, et pourtant ils sont dans le même parti, ils doivent travailler ensemble. Et par ailleurs, Mitch McConnell doit se faire réélire sur les coattails de Donald Trump. Donc tout le monde a un intérêt, mais il faut comprendre que Donald Trump n'est pas du tout de droite aux États-Unis, au sens classique aux États-Unis. Il y a de la bigoterie, il y a de la haine et de la méfiance de l'autre.
Sur la question de l'avortement, sur la question des femmes,
il s'est dédié à peu près 15 fois sur cette question. Il
vient quand même de décider qu'un certain nombre de libertés de médecins...
Mais c'est pas sa tradition à lui.
Complètement. Et là où c'est très vrai, c'est que typiquement sur la question de l'avortement, ce qui s'est passé cette semaine d'ailleurs, c'est uniquement parce que les groupes pro-life, donc anti-avortement, sont fans de Donald Trump, que Donald Trump leur donne un bon point sur cette question. Ce qu'on sait quand même depuis Fire and Fury...
Mais ça n'en fait pas une figure de gauche.
Non, pas du tout. Mais c'est quand même à la Maison-Blanche aujourd'hui le dernier qui a parlé qui a raison.
Donc c'est aussi peut-être Bradley Smith.
Je pense pas qu'on puisse dire qu'il n'est pas de droite quand il est climosceptique, quand il soutient la
climato-sceptique,
quand il soutient une politique d'immigration extrêmement dure, ce sont des thématiques de la droite classique.
Je dis juste qu'il n'est pas conservateur. Je suis d'accord.
Une figure
de droite.
Et c'est qu'intellectuellement, il y a une vraie. Alors, il faut quand même se rappeler aussi du contexte dont on sort. Pendant la convention qui va porter la nomination de Donald Trump ensuite, avant l'élection générale, on a quand même un Paul Ryan notamment et un Reince Priebus qui est le patron du Parti Républicain, qui font tout ce qu'ils peuvent en coulisses pour essayer de trouver
un remplaçant, pour aussi
bien montrer que Donald Trump n'est pas compatible avec ce qu'on appelle la plateforme républicaine. Quand on est nominé du parti, il faut qu'on adhère à une plateforme.
Mais c'est une plateforme conservatrice.
Absolument.
Ce que vous vouliez dire, Scott Sayer, je pense, c'est que vous pensiez aussi à des figures comme Bill Kristol, David Brooks, David Frum, etc., qui sont des grandes figures qui se sont opposées à la gauche depuis des décennies et qui là se retrouve anti-Trump également. Je pense à David Brooks du New York Times, qui est le républicain de service normalement au New York Times, est anti-Trump.
Mais exactement, on assiste à une sorte d'opposition interne, non pas dans le Parti républicain, parce que les intérêts électoraux sont trop élevés, mais au sein de l'intelligentsia de la droite américaine classique, conservatrice, il y a une opposition très claire contre Donald Trump. On accepte de travailler avec lui quand il faut, mais on se rappelle, comme vous dites, Bill Kristol, donc patron du Weekly Standard, qui est le,
quintessence le
de la droite classique américaine, conservatrice, ne peut pas accepter.
C'est trop vulgaire pour lui.
C'est trop vulgaire, c'est trop xénophobe. Parce que la droite conservatrice, même si on permet un certain conservatisme social, il y a aussi une volonté de liberté. Ça rejoint le libertarianisme à l'américaine. Donc ces gens, sur le plan idéologique, ne sont pas du tout d'accord avec Donald Trump.
On peut citer aussi un certain nombre d'intellectuels, je pense, alors bien sûr la gauche radicale, que ce soit Noam Chomsky, des gens comme Ralph Nader, ancien candidat disons de gauche radicale, vert, pro-consommateur, qui sont évidemment tous très anti-Trump, mais aussi des gens comme Cass Sunstein, par exemple, professeur de droit extrêmement célèbre, qui vient de publier un livre très malin qui s'appelle Impeachment, tout simplement l'air de rien pour dire voilà les outils qu'on pourrait éventuellement utiliser dans le droit américain s'il y avait besoin, mais je pense à personne en particulier, de faire un impeachment, c'est-à-dire en l'occurrence de demander à ce qu'un président en exercice quitte le pouvoir. C'est arrivé, notamment évidemment avec Nixon, oui, c'est pas très fréquent.
Sauf que là, pour le coup, le Congrès n'est pas totalement fou. Ça révèle bien cette espèce de collusion de circonstances entre les élus actuels du Parti républicain et l'administration Trump. Ils sont quand même pas fous au point de se cisailler eux-mêmes et de couper le bras de l'administration. Donc on verra après les midterms de novembre prochain dans quelle configuration politique on est réellement pour lancer une procédure ou pas d'impeachment.
Terminons cette émission avec cette première partie d'émission avec les intellectuels et la culture après les intellectuels, notamment le cinéma, la musique, les arts plastiques. Il faut rappeler aussi que les agences, les grandes agences, que ce soit la FCC qui régule les communications, que ce soit le NIH, National Endowment for the Humanities, qui s'occupe plus des intellectuels et en tout cas d'un certain nombre de bourses et de financements des universitaires, ou le NEA, le National Endowment for the Arts, dans les trois cas, c'est des agences qui sont en très grande tension. Certains nombre de directeurs ont démissionné, de conseils d'administration ne fonctionnent plus, les agences ont perdu une partie importante de leur budget. Bref, tous ces milieux-là sont assez hostiles, du coup, à ce qui se passe. Et dans l'art, c'est vrai en particulier, où là, il y a une grande uniformité dans l'opposition anti-Trump, y compris Zoé Sfès, jusque dans les arts plastiques.
Ouais, surtout même dans les arts plastiques, parce que dès d'ailleurs le lendemain de l'élection présidentielle, il y a eu un des tout premiers comptes anti-Trump qui s'est créé. C'était un compte Twitter qui s'appelait Dear Ivanka, qui s'adressait à la fille de Donald Trump, qui est une figure très ambiguë parce que, on le sait, elle a fait partie un peu de cette élégance un peu new-yorkaise par le biais de son mari. Elle a été une collectionneuse d'art, donc elle était beaucoup plus proche de ces milieux-là théoriquement. C'était même une amie de la fille des Clinton pendant assez longtemps. Et finalement, elle devient un soutien imparable à son père. Et donc, toute une partie de, alors notamment une grande commissaire d'exposition, Alison Gingeras, le galeriste Billy Powers, crée ce compte qui s'appelle Dear Ivanka, qui fonctionne aujourd'hui, qui la prennent à partie très très vite. D'ailleurs, le moment du Muslim Ban, là aussi, fait partie des moments qui a été un des moments, importants pour mobiliser le milieu de l'art. Le MoMA, le Guggenheim, le Whitney Museum, à ce moment-là, avaient fait des accrochages spéciaux en exposant des artistes qui étaient touchés, qui auraient pu être touchés, qui donc n'auraient pas pu être exposés si ce Muslim Ban avait existé. Donc il y a eu une assez forte mobilisation. On sait que les galeries de New York font partie des gens qui ont mis le plus d'argent pour financer les bus pour la marche des femmes, 96 bus qui ont été en grande partie payés par ça. Et évidemment, ce qu'il faut dire, c'est que Donald Trump est devenu une figure, mais alors là, incontournable dans l'art contemporain. C'est-à-dire que là, c'était la grande blague à la Miami Art Basel, dont vous savez sans doute qu'elle est la plus grande foire d'art contemporain. Mm-hmm. Il y en a une juste après l'élection de Donald Trump, où déjà, il était assez présent. Là, j'ai quelques belles choses devant moi. Et cette année, c'était la blague où le directeur disait, je ne pense pas qu'il y ait un stand d'une seule galerie qui n'ait pas une effigie, une œuvre qui n'est pas prise en compte, en tout cas la figure de Donald Trump. Là, j'ai un très beau portrait d'Ila Gore qui met un Donald Trump tout nu avec un tout petit zizi. Il y a effectivement des stands de presse qui s'exposent extrêmement bien. En ce moment, on a vraiment une belle exposition au Drake Center de New York avec uniquement des dessins de presse consacrés à Donald Trump. Et il faut dire aussi que parfois, ça pousse d'ailleurs les artistes à aller dans des directions très graves. Ce que me disait Alison Gingeras, commissaire avec qui j'ai pu m'entretenir par téléphone, c'est que finalement, elle l'a vécu, et ça rejoint ce qu'on a dit au début de cette émission sur la presse. Elle a vécu cette élection finalement comme un moment important dans l'histoire de l'art américain, en disant, nous finalement, l'art politique, on connaît plus. On n'a plus depuis même la guerre froide. C'est-à-dire que même la guerre froide, c'était un thème vu qu'il y avait une dissension il y avait des artistes qui avaient des sympathies communistes. L'art politique aux États-Unis, il n'existe plus, voire peut-être a-t-il seulement existé, et que là, finalement, c'est presque une forme d'explosion créative à laquelle on assiste grâce, finalement, à l'élection de Donald Trump. Faut noter, par exemple, cette pièce de théâtre Jules César de la troupe du Public Theater, qui, elle, pour le
où
coup...
Où Jules César est assassiné sur scène, par,
est assassiné
comme il
sur
se
scène,
doit, il sauf Donald que c'est Trump, Donald
et,
Trump.
Voilà. Et il est assassiné par des femmes et des minorités. Et alors là, pour le coup, ça a été quand même très violent, parce que
tout
la plupart des...
Tout quoi,
beaucoup de sponsors, parce que vous savez que, évidemment, et c'est ça,
on l'un des autres
enjeux,
soutien,
ouais. ont retiré leur soutien, et c'est un enjeu, mine de rien, parce que ça a beaucoup fragilisé cette troupe, et c'est toujours un enjeu quand on se rappelle quand même qu'aux États-Unis il n'y a quasiment pas, on peut le dire, d'argent public pour la culture, ou de manière très 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 infime, et que c'est toujours évidemment le privé qui
bien
finance
là,
l'art.
C'était notamment au Public Theater de New York. Pour terminer cette émission sur l'art, brièvement les uns l'autre, Marjorie Taillon.
Non, je n'inciterai que trop nos auditeurs à essayer de se procurer, s'ils le peuvent, les magnifiques unes du New Yorker, ouais. Qui ont émaillé de la campagne jusqu'à cette première année
d'administration. Donc celle de cette
Trump.
Semaine avec un Trump au fond
semaine,
du trou, on voit juste les cheveux jaunes.
Où je pense aussi
il est
à
tombé
celle
dans
où
le
on voit
trou.
Cette illustration incroyable qui s'appelle Trump Year One, si je ne dis pas de bêtises, première année, où on a juste les cheveux de Donald Trump qui se transforment en Burning Bush, vraiment en buisson ardent.
Ça, c'est Time Magazine.
Et c'était Time Magazine, tu as raison.
De cette semaine.
Qui monte jusqu'au ciel, on verra bien ce que donnera.
Et là, on voit bien donc les artistes plastiques, je pense à Stéphane de Ferry, à Richard Prince, Richard Serra, Cindy Sherman, qui tous, vous le disiez à l'instant, Zoé Sfès, sont très anti-Trump. Hollywood, autour de la figure de Meryl Streep, mais beaucoup d'autres, mais Michael Moore, bien sûr. Les écrivains, Stephen King en tête. Je parle même pas de la musique, on a écouté un certain nombre, Eminem, bien sûr, Kendrick Lamar, d'autres. Il y a des playlists dédiées sur Spotify aux 10 top 10 anti-Trump protest songs, etc. Et tout ça a été très discuté d'ailleurs, et cette semaine, puisque c'est le premier anniversaire de son élection, c'était hier, Scott Sayer.
Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que la musique country aux États-Unis est tout de même la musique la plus écoutée.
Beaucoup moins anti-Trump.
Et elle est beaucoup moins anti-Trump.
Nashville résiste bien.
Nashville, Texas, il y a une histoire, dont on se souvient aux États-Unis, autour d'un groupe qui s'appelle les Dixie Chicks. C'est un groupe de trois femmes texanes qui, en 2003, pas longtemps après le lancement de la guerre en Irak, avait eu le malheur de dénoncer publiquement le président Bush et de dire qu'elles avaient honte que ce soit lui leur président. Leur carrière, qui était une carrière jusque-là extraordinaire, enfin c'était un groupe extrêmement populaire, a chuté totalement.
Ils sont sabordés.
Absolument. Et donc, il y a une vraie prise de conscience, une connaissance de cause, ouais. des dangers de critiquer
Pour terminer d'un mot les uns les autres, pour ne pas avoir abordé cette question, tout ça, on a l'impression, ne sert à rien. Où est-ce qu'on va, finalement? Cette opposition qu'on a décrite un peu minutieusement dans tous les secteurs, on a l'impression que ça n'a pas d'impact. Est-ce que tout ça sert à quelque chose, finalement? Très brièvement, Marjorie Taillon.
La question de l'impact, il va falloir la mesurer, je pense, de façon vraiment très factuelle, au moment des midterms qui arrivent novembre prochain. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la société américaine, les médias américains n'ont jamais été aussi polarisés et campés finalement sur leur position. Donc ça, c'est dangereux pour ce que ça veut dire du débat démocratique, pour ce que ça signifie justement de la façon dont les opinions se forment. Et on l'a vu notamment pendant la campagne, on parlait des médias sociaux tout à l'heure. En fait, on n'a jamais autant que conforter son opinion en ligne plutôt que de la construire. Et ça, c'est un vrai défi pour nous, médias traditionnels, médias sociaux.
Bradley Smith.
Oui, je suis d'accord, c'est les midterms qui vont être
arbitrés
en quelque sorte l'efficacité de ces mouvements. Des mouvements comme MeToo et comme les Black Lives Matter, ils sont tout à fait dans ces problématiques. Comment passer d'un mouvement social à des succès électoraux il ne faut pas oublier la présence de Bernie Sanders, Elizabeth Warren, toutes sur les réseaux sociaux.
Voilà, un portrait d'Elizabeth Warren qu'on vous recommande, on le mettra sur Twitter, et d'ailleurs ça me permet de vous dire que pour aller plus loin, on a cité beaucoup d'articles, d'artistes, de rappeurs, d'idées, d'intellectuels ce soir. On a essayé de poster tout ça sur Twitter au hashtag softpower, on le postera aussi, ainsi que des références, des articles, des ouvrages et des références qui nous ont été utiles pour préparer cette émission, tout ça au mot-clé softpower sur notre page sur le site franceculture.fr, ainsi que sur un article Medium pour essayer d'aller plus loin au cours de cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. La musique part fort, elle est en bagarre comme nous l'étions un peu ce soir dans une émission consacrée aux anti-Trump, on aurait pu faire une émission sur les pro-Trump. Ça existe aussi, ce n'est pas le sujet et le choix de cette émission ce soir. On le fera
l'année prochaine.
Cette année, à un moment ou à un autre. En tout cas, merci Bradley Smith, maître de conférence en civilisation anglophone à l'Université Paris-Nanterre. Marjorie Paillon, journaliste à France 24. Scott Sayer, journaliste américain. Et Zoé Sfès, dans un instant, on continue, puisqu'on parle à ce moment-là, dans votre invité, avec votre invité Innovation, on parle d'Internet et de Trump.
Et oui, c'est Olivier Tesquet, il vient de rentrer dans notre studio et on parlera avec lui de la neutralité du web, ce principe longtemps non écrit puis écrit sur lequel la commission numérique fédérale des communications est revenue avec évidemment l'appui de Donald Trump. Pourquoi l'a-t-il voulu? Quelles conséquences si elle était vraiment mise en œuvre? Eh bien, cela aurait. On en parle avec Olivier Tesquet tout de suite.
Et à 20h10, ce sera le débat, ce que Trump a fait au numérique. Tout ça après du rap anti-Trump, bien sûr. You know, sometimes I think they don't truly understand me, you know? Cause they don't. Can't change the world unless we change ourselves. Die from the sicknesses if we don't seek the health. All eyes be my witness when I speak was felt. Full house on my hands, the cards I was dealt. 3 K's, 2 A's in America. I'm just a black spade spawned out the nebula. And everything I do or say today that's worthwhile. With assurance by your action and your first child. I begin my first now. Sometimes I speak and I feel like it ain't my words. Like I'm just a vessel channeling inside this universe. I feel my ancestors arrested inside of me. It's like they want me to shoot my chance and change the society. But how do I go about it? Tell me where I start. My destiny rerouted when I chose to follow heart. You told to follow suit, but tell me what it do for you. Except where you down, now you trapped inside the cubicle they built for us. The first step in the change is to take notice. Realize the real gains that they tried to show us. 300 plus years of them cold shoulders. Your 300 million of it still got no focus. Sorry America, but I will not be your soldier. Obama just wasn't enough, I need some more closure. And Donald Trump is not equipped to take this country over. Let's face facts, cause we know what's the real motives. In the land of the free is for the freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Still got the last names of our slave owners. In the land of the free is for the freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Yeah, we can't change the world. À l'instant, Land of the Free, Land of the Free, un titre lancé il y a un an précisément. Lors de l'investiture de Trump, le morceau était sorti ce jour-là, c'est signé Joe Badass, le rappeur américain qui dit « Donald Trump n'est pas au niveau pour diriger ce pays, affrontons les faits, car nous connaissons les motivations réelles ». C'était sur ce titre « Land of the Free ».
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Olivier Tesquet.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Télérama, vous êtes spécialiste de bien des choses, mais essentiellement de ce qu'on appelle le numérique, même si c'est toujours une case un peu vague. Vous avez un excellent blog qui s'appelle Boîte Noire, et on va revenir avec vous dans cette séquence spéciale un an donc, de présidence à Trump sur l'une des décisions, l'un des signes politiques en tout cas majeurs envoyés par Donald Trump et son administration dans le domaine stratégique du numérique, à savoir sa volonté d'en finir avec ce qu'on appelle la neutralité du web, règles, paradigmes de base longtemps non écrits qui existent depuis les débuts d'Internet, sanctuarisés par son prédécesseur Barack Obama, et qu'il a souhaité remettre en cause. Alors on va quand même revenir, pour ceux qui ignorent, même malgré le fait qu'on en a souvent parlé ici sur Soft Power, sur ce principe de la neutralité du web. Est-ce qu'on peut, puisqu'on le vit sans même le savoir, qu'est-ce que c'est que ce principe de la neutralité du web?
Alors c'est vrai que c'est important de signaler qu'on est tous concernés par la neutralité du net. J'utilise toujours la même métaphore, je suis pas le seul à le faire d'ailleurs, c'est une métaphore assez parlante. Faut imaginer que le trafic sur Internet, ce serait comme une espèce de grande autoroute. Et sur cette autoroute, toutes les voitures sont censées circuler à la même vitesse. C'est-à-dire que toutes les informations sont censées nous parvenir dans les mêmes conditions, sans qu'il y ait de discrimination sur les paquets de contenu, comme on les appelle. Et la fin de la neutralité, en fait, ça signifie qu'on crée deux voies bien distinctes. On aurait d'un côté des grosses berlines qui ont de l'argent et qui peuvent rouler plus vite, c'est-à-dire qui peuvent acheminer leurs informations plus rapidement, et puis d'autres voies plus embouteillées avec des petites berlines qui, elles, n'ont pas les moyens de payer pour cet accès prioritaire et qui seraient du coup un Internet à deux vitesses.
Alors justement, ceux qui évidemment penchent, en tout cas militent, et ce depuis très longtemps, pour arriver à cette solution à deux voix ou à plusieurs voix, c'est-à-dire pour qu'on mette fin à cette neutralité du web, ce sont les fournisseurs d'accès à Internet qui dépensent de l'argent, investissent pour développer le réseau, évidemment. Ils militent pour cela aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qu'en France, hein, puisque c'est dans leur intérêt, puisque ce sont eux qui aujourd'hui... en tout cas, subissent les frais de ces fameuses bandes passantes. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que Barack Obama, qui a réussi dans un premier temps à contraindre un petit peu, hein, à l'époque, cette Commission fédérale des communications, elle avait été contrainte d'accepter des règles écrites qui garantissaient cette neutralité du web. Entre-temps, évidemment, l'administration a en partie changé. Qu'est-ce qui, chez Donald Trump, ou en tout cas chez les conservateurs, faisait qu'on penche pour la fin de cette neutralité du web ?
Alors, il y a deux choses. Il y a déjà eu une bataille très politique au moment des décisions d'Obama sur justement la sanctuarisation de la neutralité. Il y avait eu pas mal d'accusations, notamment de la part des républicains, sur le fait que la Maison-Blanche aurait manipulé les membres de la FCC pour obtenir gain de cause, etc. Bon, depuis, il y a eu la publication de documents qui ont montré que finalement, d'ingérence et de manipulation et d'intimidation, il n'y avait pas eu. Mais voilà, c'était un levier politique comme un autre pour justement essayer de montrer que Barack Obama pouvait essayer d'influencer une autorité théoriquement indépendante. Après, effectivement, c'est un vieux cheval de bataille, pas nécessairement des républicains. D'ailleurs, on se rend bien compte que sous nos latitudes, ce genre de problématique caresse des champs politiques relativement larges. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les républicains, peut-être plus que les autres, sont attentifs aux revendications et aux arguments des grands opérateurs télécoms qui dépensent des sommes considérable depuis très longtemps pour faire du lobbying à Washington et ailleurs. Et donc, ils sont particulièrement sensibles à leur position et la position des fournisseurs d'accès, encore une fois, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, que ce soit ailleurs dans le monde d'ailleurs, c'est de dire on a des tuyaux, aujourd'hui on a de plus en plus de contenu dans ces tuyaux, donc il faut les élargir, et pour les élargir, ça a un prix. C'est nous qui entretenons l'infrastructure et qui la déployons, donc il va falloir payer plus cher.
Et alors effectivement, vous l'avez dit, donc depuis l'équipe de cette fameuse commission, elle a en partie changé, et elle a voté, donc elle a donné son accord pour faire annuler ces fameuses règles qui avaient été mises en place sous Obama. Alors il faut quand même rappeler que cette neutralité du web qui est terminée n'est pas encore effective, hein, donc vous l'avez le principal argument de Trump en la matière aujourd'hui, c'est, donc vous l'avez dit, évidemment d'écouter les demandes des fournisseurs d'accès à Internet. C'est aussi dire que c'est bien qu'il y ait moins d'État. Ça fait partie en tout cas de ces idées politique là. Et c'est aussi de dire, c'est son grand argument, et c'est le grand argument notamment des fournisseurs accès à Internet, aussi bien aux États-Unis qu'en France, qui est de dire, on va pouvoir innover plus, on va pouvoir développer plus l'Internet, puisqu'on aura plus de sous, on sera plus de marge, donc on aura plus de sous pour le faire. Et tout ça va dans le bon sens. Qu'est-ce que vous pourrez opposer comme argument à ces arguments-là ?
Alors, effectivement, c'est assez drôle d'ailleurs de constater que la semaine du 14 décembre, où vote donc a eu lieu à la FCC pour démanteler la neutralité. Il y a une photo qui a été publiée où on voit Donald Trump dans un bureau avec des liasses, des montagnes de papier, et lui avec une grande paire de ciseaux. Et ces liasses de papier sont censées symboliser l'empilement de règles qui justement étranglent l'économie américaine. Et évidemment, les règles qui encadrent Internet rentrent tout à fait l'idéologie de Trump, entre totalement dans ces nœuds qui enserrent comme ça et qui bloque l'économie américaine. Alors effectivement, moi ça me fait toujours rire cet argument de dire ça bloque l'innovation, la neutralité, alors qu'on pourrait opposer l'argument exactement inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans neutralité, le ticket d'entrée est considérablement rehaussé. C'est-à-dire que vous allez avoir des gros opérateurs. Je vais prendre Netflix, vraiment, au plus grand des hasards. Netflix qui est extrêmement gourmand en bande passante, qui est aussi aujourd'hui qui va devenir le premier producteur audiovisuel au monde, qui a des moyens considérables. Netflix pour acheminer des contenus de manière prioritaire, ils vont être prêts à faire un chèque. Ça va fixer un tarif qui va être inaccessible pour 99% des autres opérateurs du même type. Donc finalement, on va empêcher des acteurs qui sont d'une taille moindre de pénétrer un marché, de se développer, et on va ne faire que renforcer le pouvoir économique et politique parfois d'entreprises qui possèdent déjà un pouvoir, on va dire, assez important. Et j'ajoute un petit point là-dessus, c'est que aux États-Unis, peut-être encore plus qu'ailleurs, les fournisseurs d'accès, donc si vous prenez les plus gros, AT&T, Comcast, Verizon, c'est pas seulement des fournisseurs d'accès, c'est aussi des fournisseurs de contenu. C'est-à-dire
oui,
que on est, on va dire, les grands orchestrateurs des tuyaux. C'est nous qui propulsons ce qu'il y a dedans, mais on met aussi ce qu'il y a dans les tuyaux. Donc évidemment, ils ont un intérêt considérable
à privilégier leur propre contenu.
Ce qui est évidemment l'une des craintes dans un Internet où il n'y aurait pas de neutralité.
Alors qu'est-ce qui se passerait si effectivement tout cela venait à voir le jour concrètement ? Est-ce que ce serait, comme vous le dites, essentiellement les plus gros, c'est-à-dire Google, Netflix, etc., qui ont intérêt, qui eux seraient en capacité de payer, qui seraient présents et que les acteurs finalement, les petits acteurs ou les acteurs plus alternatifs, soit moins visible, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le dark web, il pourrait y avoir des espèces de grey web auxquels on aurait moins accès, ou est-ce que ce serait l'internaute qui finalement serait pénalisé ? Parce que c'est ça la vraie question. On parle aussi d'abonnements qui seraient avec des abonnements de plus en plus chers, avec différentes versions d'Internet auxquelles on aurait accès.
Alors,
ça se jouera dans quel sens ?
J'ai tendance à dire les deux. C'est-à-dire que les entreprises vont être pénalisées, c'est-à-dire que ceux qui n'auront pas les moyens de payer le jeton pour rentrer vont être pénalisés, parce qu'effectivement ça va rehausser considérablement ce ticket d'entrée, et l'internaute va être évidemment lésé, parce que on a déjà des exemples, par exemple même en France, hein, il y a quelques années, Free bridait le débit de ses abonnés qui voulaient visionner des vidéos sur YouTube le soir, parce qu'il y avait un contentieux financier entre Free et Google, et pour faire pression sur Google dans ce contentieux financier,
qui est propriétaire de YouTube,
Free avait décidé de brider délibérément l'accès à ces vidéos YouTube, pénalisant par là même les utilisateurs. De la même façon, on pourrait imaginer que demain, vous allez payer un certain tarif pour avoir une offre Internet, mais sauf que vous aurez une offre Internet dégradée, de base, sur laquelle vous n'aurez pas tous les services. Donc c'est le principe du freemium, en fait, c'est-à-dire que c'est gratuit jusqu'à un certain point. Et si vous voulez avoir une offre de VOD, une offre de je ne sais quel autre service, eh bien, il faudra payer davantage. Donc effectivement, le risque pour l'internaute, il est double. C'est déjà de voir certains contenus potentiellement disparaître, parce qu'il y a des choses ne seront plus aussi visibles qu'elles ne le sont aujourd'hui, puisque toutes les informations ne seront plus acheminées selon les mêmes règles. Et puis, il y aura un poids financier à payer dans un Internet sans neutralité.
Dernière question. En Europe, on sait que, même si aujourd'hui, paradoxalement, la décision de Donald Trump de revenir sur cette neutralité du web a donné l'occasion en Europe à quasiment tout le monde plutôt d'être sur une réaction inverse, en réaction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde s'accorde pour dire qu'en France, on va préserver, et en Europe, cette neutralité du web, voire la sanctuariser. Mais il y en a certains qui se disent pourquoi cette neutralité du web ne serait pas un moyen aussi pour nous, pauvres Européens, qui sommes assez faibles aujourd'hui face à des gens comme Google, comme Amazon, comme Apple, ce serait pas un moyen finalement de pouvoir avoir un moyen d'action contre eux, ou en tout cas de les faire payer, parce qu'on sait qu'on a du mal à leur faire payer des impôts, c'est-à-dire d'avoir finalement une manière indirecte de les taxer, d'essayer de freiner un peu le jeu et de pouvoir peut-être imposer nos propres acteurs européens. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que c'est pas aussi, mine de rien, une occasion de lutter contre des entreprises qui sont aujourd'hui en situation de monopole et qui sont à 99% américaines ?
Alors, je sais qu'au niveau européen, effectivement, on a toujours plein d'idées dans la boîte à idées pour essayer de trouver une solution, pour lutter contre le poids considérable des multinationales du numérique, trouver un moyen de les taxer d'une façon X ou Y. Alors, attention quand même aux effets secondaires de ce type de traitement, dans la mesure où, prenons l'exemple de Google, Google aujourd'hui maîtrise 95 ou 98% de la recherche en Europe. C'est un poids culturel, économique, sociétal considérable. Si demain, vous rehaussez le ticket d'entrée, encore une fois, si vous dites, Google, ok, si vous voulez accéder au marché européen, vous allez devoir payer plus cher. Google va payer plus cher. C'est-à-dire que il pourrait effectivement après parlementer, il pourrait refuser ces règles-là, parce que de toute façon, ils ont une emprise sur le marché qui est telle que ces effets, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que soit vous démantelez complètement Google, enfin, ce qui est l'argument d'ailleurs d'un Sébastien Soriano, qui est le patron de l'ARCEP, le gendarme des télécoms français, il dit il faut démanteler Google. Bon, démantelons Google. Mais en tout cas, essayer de leur imposer des règles différenciées d'entrée sur le marché en imaginant que ça pourra ébranler les monopoles qu'ils entretiennent, ça me semble assez optimiste. En fait.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Voilà, merci Olivier Tesquet, merci infiniment. On vous a coupé un peu brutalement, journaliste à Télérama. On va essayer de démanteler Google. On commence ? on s'y met.
Petit peu de boulot avant faire 15, je pense qu'on est un peu ambitieux. Mais
j'ai la pioche qui m'attend à la sortie du studio.
Merci infiniment pour terminer cette émission, double émission depuis 18h consacrée à Donald Trump, dont le premier anniversaire à la Maison Blanche a lieu ce week-end, c'était hier. Nous sommes maintenant dans le numérique et politique, notre débat du dimanche soir, en présence de Christian Paul, ancien ministre. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Ancien député, ainsi que Séverin Naudet, conseiller innovation et disruption au cabinet de conseil Tilder, et ancien conseiller numérique du Premier ministre également. Débat autour de Donald Trump encore. Au fond, qu'est-ce que Donald Trump a fait au numérique? On pourrait d'ailleurs aussi inverser la question. Qu'est-ce que le numérique a fait à Donald Trump? Plusieurs questions. Est-ce que Donald Trump comprend l'économie numérique? Qu'a-t-il fait finalement, s'agissant de la Federal Communication Commission, où il a nommé Ajit Pai? Qu'en est-il aussi de ses rapports, en fait, avec la Silicon Valley? Est-ce que Trump est l'ennemi du numérique? Est-ce que Facebook est l'ennemi de Trump? Comment est-ce qu'on voit ce débat? On peut peut-être commencer par vous, Christian Paul.
Ce qui est flagrant, si on observe Donald Trump depuis quelques années, pas seulement d'ailleurs depuis qu'il est président de la République, c'est quand même une hostilité viscérale à tout ce qui représente pour beaucoup d'entre nous la culture démocratique et la culture de l'Internet. L'Internet est né, s'est développé sur la planète avec une très forte promesse démocratique, la promesse d'une société ouverte. Et Donald Trump est l'ennemi déclaré et sans complexe de cette culture démocratique. Donc ça, c'est, me semble-t-il, le fond du décor. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut comprendre que Donald Trump n'est pas l'ami de la liberté d'expression, n'est pas l'ami de la presse, bien au contraire. Il traque la moindre erreur d'un journaliste pour en tirer un avantage politique. Et plus globalement, je pense qu'il est en train de porter des coups très durs aux libertés numériques qui sont nées dans cette nouvelle civilisation, en Europe bien sûr, mais aussi d'abord aux États-Unis. Et donc ça, c'est, me semble-t-il, le point principal. Donald Trump est l'ennemi de la culture démocratique qui est, au fond, ce qu'on a pu construire de positif, d'optimiste, de progressiste avec Internet. Alors, il y a ensuite, évidemment, toute la dimension économique. À travers la question de la neutralité, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, il y a vraiment deux enjeux. Il y a un enjeu de dérégulation. Ça, c'est pour donner davantage de capacité d'agir aux fournisseurs d'accès, aux opérateurs de télécom pour s'enrichir, peut-être pour investir, mais en tout cas pour s'enrichir. Et puis, il y a un enjeu aussi de liberté d'expression. Parce que partout où la liberté d'expression est forte, il y a la tentation, à travers la mise en cause de la neutralité de l'Internet, de réduire les libertés d'expression. Donc on voit bien le chemin, le sillon que trace Donald Trump. Puis ensuite, évidemment, il y a aussi l'usage qu'il fait lui-même des réseaux sociaux et Twitter. On s'est quand même demandé ces derniers mois s'il n'y aurait pas une déclaration de guerre à la Corée sur Twitter. Hein. Alors, c'est plus la dépêche d'Ebs.
On s'est aussi demandé.
C'est en 140 caractères, on déclare la guerre. Voilà.
Ah, maintenant, c'est 280. Mais
oui, c'est 280.
On s'est aussi demandé, au fond, s'il n'allait pas se calmer. Il y a un moment donné, au fond, il avait été candidat, il y a des campagnes électorales, c'est toujours assez radical, on s'oppose, etc. On s'est dit au début, bon, il va devenir président, peu à peu, il va être rattrapé par le système, les conseillers, la diplomatie, le système militaire, etc. Et sur Twitter, ça va être un community manager qui va traiter ça de manière calme. C'est pas ce qui s'est passé.
Alors, ce qui est clair, c'est qu'il a, brisé les codes de la communication politique aux États-Unis. Alors, briser les codes, c'est pas en soi quelque chose de détestable, mais ça peut le devenir si c'est au service de mauvaises causes.
C'est vrai, Naudet, est-ce qu'il comprend l'économie numérique? Et qu'est-ce qu'on peut dire de ses premières, pendant une année, de ses premières décisions?
Ben, je crois que la première chose que je trouve vraiment intéressante, c'est que quand on se penche une petite minute sur Donald Trump, quel que soit le sujet finalement, je suis pas sûr qu'il y ait une volonté politique chez ce monsieur, mais plutôt systématiquement, c'est la culture du Far West. En fait, la seule chose qui compte, ce sont ses intérêts personnels et ses lubies du moment. Donc c'est très difficile de le décrypter.
Le Far West, c'était pas les lubies du moment, il y avait quand même la suite dans les idées. Il y avait ce qu'on appelait la frontière et le cap était défini.
Ouais, il y avait une volonté impériale quand même.
Oui, c'était aussi le règlement de la rue. Et Donald Trump, c'est un peu ça. On voit que dans l'affaire de la neutralité du net, il nomme quelqu'un qui vient de chez Verizon, qui a des intérêts de business personnel très clairs. Il n'y a pas de volonté politique, à mon avis, derrière, si ce n'est de faire plaisir à ses copains, en réalité.
C'est-à-dire aux câbles opérateurs et aux...
Exactement. Enfin, même d'ailleurs, de faire plaisir à celui qu'il a nommé à la FCC, qui lui-même fait plaisir à des boîtes pour lesquelles il a travaillé, qui ensuite en récoltera les fruits sur un plan de financier. Je veux dire, je crois que c'est très clair. Je suis pas sûr qu'il y ait une...
Mais est-ce qu'il comprend l'économie numérique ?
Ensuite, sur cette question-là, je pense qu'il n'y comprend rien. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que...
On se souvient...
En fait, on a l'impression qu'on entend cette phrase, on peut parler de ça sur la domestique, sur la diplomatie, sur la politique extérieure. Ça marche souvent.
C'est fascinant. Il l'assume complètement, d'ailleurs. Pendant la campagne, il répétait « I like the old days ». Donc, j'aime l'ancien monde. Il le dit tout le temps. Et pour lui, Internet, les nouvelles technologies, c'est deux mots, c'est cyber et hacker, ce qu'il répète en permanence dans tous les sens, on ne sait pas très bien. Il imite même à un moment son fils pendant la campagne présidentielle qui se sert trop d'un ordinateur et il trouve ça presque aberrant. Il parle de son fils. Et en fait,
en même temps, à 4h du matin, il se réveille et il tweet.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Alors, juste pour finir, on se souvient qu'il avait demandé la fermeture partielle du web, comme si c'était un truc, comme ça, on pouvait fermer, il y avait un robinet, puis à un moment, on allait fermer un bout, puis continuer à utiliser l'autre.
L'eau chaude, l'eau froide.
Il disait que l'État islamique se servait mieux d'Internet que les Américains. Alors, on se demandait si on leur avait donné le code du Wi-Fi des États-Unis et que donc ils allaient s'en servir, alors que même le patron du FBI et de l'ensemble des agences de renseignement aux États-Unis ont dit qu'en fait l'État islamique se servait pas si bien que ça d'Internet.
Enfin, il a expliqué comment il allait lutter contre l'État islamique et il a dit: ah mais non, je vais pas vous dire, parce que sinon il le saurait, il m'écouterait et il risquerait de savoir
sujet
à l'avance.
Évoqué par Christian Paul sur ce que vous disiez, par contre, il a réussi un truc incroyable, c'est qu'il a quand même près de 69 millions de followers sur Twitter. Pour mémoire, je crois que CNN, c'est 12 millions de téléspectateurs par an, hein, à peu près. Donc il a aujourd'hui, il est à la tête d'un des plus importants médias de la planète. Ça, c'est la désintermédiation totale des médias traditionnels. Et là, encore une fois, c'est son propre intérêt. C'est-à-dire que d'un côté, il comprend rien à Internet, qu'il essaie de dézinguer dès qu'il peut, quand ça l'arrange. Mais là, en revanche, il joue sur la désaffection des Américains pour la presse traditionnelle, dont on sait aujourd'hui ils n'ont plus confiance dans les médias traditionnels. Ils sont 65% à consommer de l'information via les réseaux sociaux. Il s'est construit un média ultra puissant. Il s'adresse à sa base directement, qui n'écoute que lui en boucle sur un média. Et c'est assez amusant. D'ailleurs, vous irez sur... Enfin, chacun peut aller sur Twitter, regarde sur son compte, sur un de ses deux comptes. C'est un des rares comptes sur Twitter où on voit le niveau d'engagement tourner en temps réel. C'est-à-dire qu'on va les retweets.
Dès qu'il met un tweet,
on voit. Clic, à chaque fois que...
Et c'est dispardi souvent.
Il joue sur tous les tableaux et c'est vraiment le populiste homme d'affaires par excellence qui n'est pas là pour faire de la politique, mais juste pour ses propres intérêts propres.
Christian Paul.
Oui, moi, au risque de casser l'ambiance, moi, je ne...
Et de défendre Donald Trump. Donc
non, mais je n'ai... plus d'humour à l'égard de Donald Trump. Donald Trump ne me fait plus rire. En tout cas, depuis qu'il est élu président, depuis qu'il est élu président des États-Unis d'Amérique.
Et
pourquoi c'est inquiétant ? C'est parce que Donald Trump n'est pas seul. Ça n'est pas, l'évadé de je ne sais quelle structure psychiatrique qui aurait tout d'un coup atterri à la Maison Blanche. Non. Au sein du Parti républicain, il y a aussi au sein du Parti républicain, il y a aussi, depuis très longtemps, un lobby qui s'est développé contre la neutralité du net. C'est pas Donald Trump seul. Et non, il faut quand même se rappeler, si on revient quand même à quelques éléments de culture politique, parce que dans cette affaire, c'est quand même, c'est des cultures politiques qui s'affrontent très violemment dans la base sociale de Donald Trump, sa base électorale, qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'il n'a pas été, encore une fois, élu par hasard. Il est aussi l'expression politique, l'outil politique d'une situation sociale, économique aux États-Unis, et dans sa base politique, il y a des millions de gens qui sont les défenseurs d'une société fermée, contre une société ouverte qui était la promesse des origines de l'Internet et qu'il faut encore défendre aujourd'hui.
Oui, la seule chose que je disais, c'est que dans ce cas précis-là, par exemple, s'agissant de la neutralité du net, il s'en fiche, ça ne l'intéresse absolument pas. Il est juste effectivement l'instrument d'autres lobbies et par ailleurs, il fait plaisir à quelqu'un qui est un de ses amis et qui probablement en tirera un bénéfice plus tard.
Mais il y a un raisonnement quand même derrière.
Je suis pas sûr que lui-même ait un dessein politique derrière.
Il peut y avoir les intérêts puissants des fournisseurs d'accès et des opérateurs télécoms. Il faudrait regarder d'ailleurs comment ceux-là se sont comportés au moment du financement des campagnes présidentielles. Et il y a toute une théorisation anti-neutralité du net, puisque qu'est-ce que défend la FCC en ce moment ? Et au fond, ça rend compte totalement la vision du monde de Donald Trump. Ils défendent l'idée que la neutralité peut conduire progressivement l'État américain à ruiner les fournisseurs d'accès, donc à l'État être le principal fournisseur d'accès, et donc à pouvoir s'opposer aussi aux intérêts de Donald Trump. Donc franchement, soyons attentifs.
Voilà. Joyce Fez.
Est-ce qu'on peut juste poser cette question, puisqu'on en a parlé pendant en début d'émission, quid de la Silicon Valley ? Parce que objectivement, on le sait, on l'a dit, à la base, il y a quand même une grande volonté de libéralisme des deux côtés qui pourrait faire qu'aujourd'hui, on aurait pu imaginer que Donald Trump soit proche de grands entrepreneurs comme ceux de la Silicon Valley. Il se trouve que ce n'est absolument pas le cas. Que peut ou que fait la Silicon Valley dans ce rapport-là ? Est-ce qu'on sait si potentiellement il peut y avoir évidemment des discussions ? Est-ce que d'ailleurs les géants de l'Internet, dont on dit aujourd'hui qu'ils ont quand même une puissance équivalente à celle des États, peuvent jouer un rôle aussi dans cette ou pas résistance entre États, en tout cas un rôle politique face à Donald Trump ?
Christian Paul. Bon,
je pense qu'on peut considérer qu'une part d'entre eux attend la prochaine élection présidentielle. Bon, c'est pas eux qui vont provoquer la procédure d'impeachment si elle doit advenir. Ils font parfois le dos rond. On a vu comment Zuckerberg, parce que Facebook a été mis en cause, y compris dans l'élection elle-même. Alors là, plutôt d'ailleurs au service de Trump. C'est d'ailleurs le paradoxe de la relation avec Facebook et Mark Zuckerberg, c'est que à la fois on sent bien que ce sont des cultures politiques extrêmement différentes. Sur la dimension économique, je ne crois pas qu'elle soit centrale là, dans ce débat, mais c'est des cultures politiques et démocratiques complètement différentes. Facebook a été accusé, on en a débattu d'ailleurs avec Severin Audet il y a quelques semaines, d'avoir facilité l'élection de Donald Trump en accueillant volontiers des publicités financées par des agences d'origine russe. Et dans le même temps, Donald Trump considère que Facebook est son ennemi de toujours. Voilà. Alors, moi, je pense que il n'y a pas une croisade, évidemment, de la Silicon Valley de façon organisée contre Donald Trump, mais je pense qu'il y a vraiment une envie très claire, c'est qu'il dégage.
C'est vrai, Nodé.
Non, mais il y a un choc de culture évidente et on revient toujours à un sujet d'ailleurs générationnel, ce qu'on caricature par nouveau monde, ancien monde. Il ne comprend rien à l'économie de la Silicon Valley, donc en plus il prend des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de la Silicon Valley.
Sur notamment, le visa par exemple
sur les visas où les entreprises de la Silicon Valley sont construites avec beaucoup de migrants et beaucoup de gens qui viennent d'autres pays du monde et notamment beaucoup de Français d'ailleurs.
Des développeurs,
beaucoup d'ingénieurs,
des codeurs,
français. Et évidemment ça va pas du tout dans le sens du développement de ces entreprises-là. Bon, par ailleurs, il est à géométrie variable, hein, parce que il a accusé de tous les maux Facebook, notamment quand ils ont refusé de communiquer un certain nombre de données au FBI, quand le FBI menait une enquête contre Hillary Clinton. Donc, il est toujours sur les deux sujets. Mais l'essentiel, je pense, c'est que, comme il ne comprend pas cette économie, que c'est une économie qui lui est absolument étrangère, qu'il ne voit pas d'ailleurs ce que ça apporte aux États-Unis, c'est il est sur une ère industrielle qui est dépassée et d'ailleurs sur une économie qui était la sienne qui est très particulière. Ils sont dans un affrontement régulier parce que cette économie n'est pas la sienne et qu'encore une fois les industriels de la Silicon Valley sont des gens qui sont très pragmatiques, qui sont aujourd'hui dans du soft power en plus de conquérir le monde d'un point de vue économique de manière très claire, et beaucoup des comportements, des agissements et des décisions politiques prises par Donald Trump vont à l'encontre des intérêts de cette économie.
On en reste là, messieurs, pour ce soir. Merci infiniment à tous les deux. Christian Paul, ancien ministre, Séverin Audet, conseiller innovation et disruption au cabinet de conseil Tilder. Merci à vous, Joyce Fez, d'avoir été avec nous ce soir. Depuis 18h, cette émission touche à sa fin. Elle avait été commencer par Julie Gacon sur les 1 an de Donald Trump à la Maison Blanche. Si vous voulez aller plus loin, on va poster article, référence, ouvrage sur Twitter au mot-clé Soft Power et ainsi que sur la page Facebook de cette émission. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Et une seconde encore pour vous dire que demain matin sur France Culture, dans les matins, Guillaume Erner recevra Philippe Martin, économiste, qui fut l'un des conseillers d'Emmanuel Macron. Et ce sera donc demain dans les matins. Bonne soirée, merci à tous et bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.